Stade Menuhin Festival, Cap sur Paris, du 18 juillet au 6 septembre.
Vertigo, Florence Grisel. Et cap sur le Valais dans Vertigo, 5 musées deviennent le temps d'un été des écrins à histoire, vraie ou fausse. Ce qui compte, c'est d'emmener le Kidam dans des fictions aimantées par des objets et des œuvres, extraits de collections. Celui qui orchestre cette symphonie muséale et le livre qui l'accompagne est lui aussi de souche valaisanne, mais citoyen du monde, Benoît Antille, a vu du pays, de San Francisco à Turin, en passant par Paris, en n'oubliant pas ses racines valaisannes. Quant à Nicolas Julliard, il nous emmène au cimetière des Rois à Genève. Il s'y trame de drôles de drames dans cette exposition de sculptures appelée The Other Side, l'autre côté. On l'écoutera en fin d'émission.
Le saviez-vous? Le musée de Bagne est une ancienne cure. Autrefois, vivait ici un missionnaire. Une exposition met en lumière l'histoire de cette figure du 19e siècle. Sierre, isérable, kipel ou sion. Dans chaque lieu, vous trouvez une lampe très contemporaine, pièce unique de l'artiste Paolo Chiasera pour évoquer une mise en lumière possible de l'histoire et des collections des différents musées. Henriette, une femme aux idées progressistes issue de l'aristocratie sédunoise du début du 19e.
Yo, chérie vieille philo, j'avais 8 ans.
À travers le destin de ces 5 collectionneurs fictifs, leurs collections et les faux documents historiques, écrits par Noël Reva, l'exposition triture donc notre passé pour le questionner et créer un écho avec notre présent.
Et si vous êtes curieux, vraies fausses histoires, c'est à découvrir dans 5 musées valaisans jusqu'au 15 septembre. Pour en savoir plus,
Vertigo, Vertigo. Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h. Bah oui, pour en savoir plus, écoutez Vertigo. Allez, soyons fous. Imaginons effectivement 5 expositions dans 5 lieux différents avec 5 collectionneurs imaginaires comme guides. C'est ce qui se passe actuellement dans 5 musées valaisans. L'aventure s'appelle Vraie Fausse Histoire. 2 artistes et un curateur en sont les artisans. Un livre accompagne cette quintuple exposition parue aux éditions Art et Fiction. C'est la plume de Noël Reva qui met de la chair à ces collectionneurs fictifs mais vraisemblables. Nous allons faire leur connaissance en compagnie de leur créateur, Benoît Antille, qui a imaginé cette fantaisie très documentaire qui éclaire des pans de l'histoire du Valais et du monde alentour. Benoît Antille, bienvenue dans Vertigo.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes curateur, vous avez piloté des expositions, par exemple de la ferme Asile à Sion. Vous êtes un fin observateur et analyste de la création valaisanne. Vous vous êtes frotté à la culture outre-Atlantique avec des études à San Francisco. Vous aimez investir des lieux, en interroger les codes, les objets. Il y a chez vous du scientifique créatif, votre imaginaire est plein d'histoires. Alors vous allez justement nous en raconter des histoires. Je crois que vous aimez bien inviter l'art dans des lieux insolites. Vous avez organisé notamment des expos dans les belles caves voûtées de Courtenay, si je ne m'abuse. Et avec ces 5 expositions, vous nous invitez au musée pluriel et vous nous conviez à des histoires insolites. Quelle a été l'amorce pour ce projet quand même qui est immense?
Bon, ça part d'une commande du réseau Musée Valais, donc cette association de plusieurs de nombreux musées valaisans qui n'avaient encore jamais organisé d'exposition en tant que réseau. Et ce réseau a pris pour prétexte la restauration d'une série de portraits du 19e pour monter sa première exposition. Et c'est là que le réseau a décidé de faire appel à un curateur extérieur et que le projet m'a été proposé. Donc la question du portrait en elle-même, c'est quand même un thème assez large en histoire de l'art, ça m'intéressait pas trop. Mais par contre, partir de l'idée d'une collection comme portrait, ça devenait beaucoup plus intéressant.
Et c'est comme ça que ça a commencé?
Alors c'est comme ça que ça a commencé, donc j'ai dû monter un projet. Il y a deux choses qui m'intéressaient d'aborder par la question du portrait, de la collection, pardon, comme portrait. C'est d'abord la question muséale, c'est-à-dire d'activer les objets à travers le portrait d'un collectionneur. Donc toute collection est finalement une forme de
portrait,
que ce soit d'un collectionneur ou même d'une institution, d'une région. mais aussi à travers ces collectionneurs qui sont donc fictifs, c'était de questionner, de raconter, de réinvestir, et de réactiver l'histoire valaisanne et de la questionner aussi avec un regard critique.
Et vous dites aussi dans ce très beau livre paru chez Arréfiction que vous essayez aussi de mettre en valeur en fait les angles morts de l'histoire valaisanne. Un exemple d'angle mort par exemple.
La première chose qui me vient en tête, c'est la question des femmes. J'ai eu la chance, quand on était en train de préparer le projet, d'aller assister à un colloque de Via Mulieris, sur notamment la question de la présence des femmes dans l'historiographie valaisanne. Donc il y a maintenant des femmes, des jeunes historiennes qui travaillent sur ce sujet, mais il y a encore beaucoup à faire. Et il faut aussi dire que les femmes ne sont pas toujours très bien représentées dans les sources. Donc ça, c'est vraiment un exemple parfait d'angle mort qui nous a permis d'incarner un personnage un peu subversif, sulfureux, qui a travaillé libéral, qui a travaillé contre le conservatisme. Et à travers elle, de raconter l'histoire de l'opposition entre le conservatisme et le libéralisme en Valais, quoi.
Alors justement, vous avez créé les biographies de 5 collectionneurs fictifs. Il y a un alchimiste du 16e dont on découvre la collection au musée du vin de Sierre, une femme pionnière, vous venez de dire, progressiste et aristocrate, qui est issue du 19e, on découvre son univers au pénitencier de Sion. On fait la connaissance avec un missionnaire du 19e ayant émigré en Algérie, sa collection est au musée de Bagne. Pour le 20e siècle, la collectionneuse est une artiste ethnologue amnésique, ça m'intéresse beaucoup. On la retrouve au musée du Löschental, tandis qu'au musée d'Isérable, on rencontre un inventeur producteur de bière d'aujourd'hui. Alors, voilà, moi j'avais très envie que, je sais pas, vous nous plongiez, j'avais envie de vous demander de choisir, mais vous parlez justement de faire de la place aux femmes. Est-ce que vous pourriez nous raconter le destin justement de cet ethnologue artiste du 20e amnésique qui s'appelle Anne-Marie Bachet, c'est ça?
Tout à fait. Écoutez, pour chacun des personnages, la méthode est toujours un peu la même, c'est qu'il y avait de toute façon des thématiques valaisannes qu'on voulait et devait aborder, comme l'émigration, l'école de Savièse, enfin...
La révolution agraire.
Voilà, et plein de ces thèmes qu'on voulait quand même placer à aborder. Mais ce qu'on a fait, parce que les biographies ont été... je les ai rédigées, mais on a décidé des grands traits des personnages avec les deux artistes, Paul Okiazera et Eustein Hazan. Et c'est souvent aussi partie des rencontres qu'on a fait avec les différents directeurs, directrices de musées, les conservateurs, etc. Souvent, on leur posait une question en arrivant, c'était « Parlez-nous peut-être de personnages qui sortent du commun que vous connaissez et que vous avez rencontrés à travers votre travail ». Et donc, par exemple, pour ce personnage d'artiste ethnologue, eh bien, il y a cette femme qui est affiliée à l'école de Savièse, Marguerite Burnat-Provin, qui a fait d'ailleurs le sujet d'une exposition récemment au manoir de Martigny. Donc, des personnages hauts en couleur comme ça, on peut dire que la réalité dépasse la fiction. À travers ce personnage, on a parlé de l'école de Savièse, on a parlé aussi un peu de ces Valaisans qui sont partis à Paris, qui ont fait de l'art moderne, qui sont revenus, qui ont questionné leur pays à travers ces codes culturels, notamment, donc, comme je l'ai dit, l'école de Savièse. On parle aussi à travers ce genre de personnages des débuts de l'ethnologie en Valais. Des chercheurs venus de la ville, de l'extérieur, comme un couple de Bernois, si je me trompe pas, les Hanler, frère et sœur. Les Hanler, extrêmement intéressant, parce que lui est plutôt artiste, elle plutôt scientifique, et qu'on travaillait à une somme monumentale de la culture du Löschental, qui est un livre vraiment à cheval entre une entreprise scientifique et artistique, et qui est une sorte de mémoire totale de ces codes culturels tangibles et aussi intangibles. Quoi. Donc ces personnages-là nous ont tous inspirés, et on voulait pas simplement raconter l'histoire valaisanne et la réactiver, on voulait aussi questionner... de manière active des questions d'ordre historiographique ou même épistémologique, c'est-à-dire la manière dont l'histoire est écrite ou de questionner notre rapport à la science ou à la connaissance. Et d'où, là, l'amnésie. Et moi, j'ai un cas que j'ai toujours adoré, c'est ce petit passage de 100 ans de solitude, hein,
De Marquez, de Garcia Marquez.
Pardon, ouais. Merci. Où justement cette population de Macondo perd la mémoire. Et ce qui est décidé, c'est qu'on va commencer à mettre des étiquettes partout pour se souvenir des choses, pour pas en perdre l'usage. Et finalement, c'est très proche d'une méthode comme la méthode historique ou archéologique, ethnologique. Donc c'est aussi ça le vrai sujet de ce personnage amnésique, en fait, aujourd'hui, dans ce monde contemporain qu'on décrit postmoderne, qu'on décrit comme amnésique, d'un rapport à l'histoire qui est un peu en crise. Eh bien, ça nous intéressait de se demander, voilà, de parler de ça métaphoriquement à travers l'amnésie.
Alors, vous en parlez très bien, Benoît Anti. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsque vous vous adressez aux personnes qui sont responsables de ces musées, ces 5 musées, vous leur proposez le projet, ils vous donnent carte blanche, ils ont confiance en vous, ils vous disent attention, faites gaffe, il faut quand même rendre accessible à plusieurs publics. Comment ça se passe, justement, cette rencontre?
Alors, ça a été un processus, pour moi, dans mon expérience personnelle, hors du commun. Expérience hors du commun aussi pour les deux artistes, pour en avoir longuement discuté. Et une des caractéristiques qui est très importante pour comprendre la genèse du projet, c'est sa temporalité. Ce qui devient très rare aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur le temps long.
Donc vous avez eu du temps.
On a eu beaucoup de temps. Entre la première rencontre et le vernissage, il y a eu, je dirais, presque 4 ans. Il y a eu une étape préliminaire où il a fallu que je présente un projet très brièvement décrit, qui a été accepté. Une un peu plus longue, où il a fallu, là, après que les deux artistes aient été proposés, où on a dû revoir notre copie en étant beaucoup plus précis. Et ensuite, le mandat ayant été obtenu, on a commencé vraiment à travailler et à faire notre recherche, parce que, comme vous l'aurez compris, c'est un projet qui a demandé passablement de recherche, notamment historique et dans les collections. Donc, si on veut, ce temps long permet de répondre à votre question, parce que les choses se sont faites de manière très progressive. C'est pas du tout parti, si on veut, comme une carte blanche. C'était vraiment l'idée que les directeurs et directrices du réseau participent vraiment à l'élaboration du projet. C'est-à-dire, bien sûr, en nous faisant confiance dans les directions artistiques qui étaient choisies. Mais qui est vraiment une participation et que ce soit pas pour eux une découverte le jour du vernissage, ce qui s'est fait. Donc on a bénéficié déjà d'une part de leurs connaissances respectives, mais aussi d'un échange qui était extrêmement enrichissant pour l'élaboration du projet. Et finalement, les choses sont arrivées très gentiment là où elles sont arrivées. À la fin du compte, on s'était dit évidemment, comme dans tout cadre de commande, on s'était dit, mais finalement, jusqu'à quel point on va devoir, entre guillemets, faire des concessions? Et on a bénéficié alors d'une liberté de travail extraordinaire, d'une confiance totale, je dirais, du réseau musée qui nous a complètement soutenus, même sur des options qu'on a jugées peut-être un peu iconoclastes, comme tous ces symboles du pouvoir qu'on a mis scellés comme des fétiches un peu dans le sol de ce personnage qu'on a évoqué avant, là, ce personnage féminin sulfureux. Mais à aucun moment, si on veut, on a senti cette...
Pas de bâton dans les roues.
Pas de bâton dans les roues, non.
Alors je vous propose que nous allions tout à l'heure, après cette pause musicale, on va voir à quoi ressemblent finalement physiquement ces installations dans ces musées. Je vous propose d'écouter la valaisanne Aurélie Emery avec Sagittaire, extrait de son nouvel album. Aurélie Emery chante Corinne Habille, un goût de rocher, album qu'elle présentera sur scène le samedi 10 août au Parc de l'Ermitage à Lausanne dans le cadre des Garden Parties, qu'on se le dise. Sagittaire, Aurélie Emery dans Vertigo. En compagnie de Benoît Anti, nous parcourons en ce moment 15, ça aurait été intéressant, 5 destins valaisans au travers des siècles dont les histoires sont à découvrir dans 5 musées valaisans. Musées aussi bien historiques, artistiques qu'ethnographiques. Il y a ce que l'on découvre dans les 5 musées, on va y revenir. Et il y a ce livre qui permet aussi de voyager au travers de ces 5 destins. Si vous, Benoît Anti, vous avez imaginé les CV de vos 5 collectionneurs, vous avez mis entre les mains de l'auteur valaisan Noël Reva ses destins, qu'elle illustre avec des documents fictifs, mais aussi tellement réels, avec des correspondances, et notamment aussi cette interview plus vraie que nature qu'elle imagine publiée dans le Nouvelliste, interview du jeune producteur de bière Bertrand Coudray, où on se régale de ses inventions et de sa manière de vouloir tout recycler. C'est vraiment un être du 21e siècle, 4.0 comme on dirait aujourd'hui. Est-ce que Noël Reva avait elle aussi carte blanche?
Oui, complètement. Avec quelques indications de notre part qu'on voulait pas être trop contraignante. Donc la collaboration avec elle a été fantastique. Donc vous avez un petit peu évoqué ces figures de style hein, qu'elle a utilisées. Le but, si on veut, pour nous, c'était un peu de se doter de faux documents historiques. Hein.
Des fausses archives.
Des fausses archives, parce que finalement, on s'est emparé de l'histoire et de la science de l'histoire comme d'un médium. Donc les objets, le patrimoine, mais aussi les sources, quoi. Et donc on lui a donné quelques indications, mais enfin c'était le but aussi en faisant appel à quelqu'un comme Noël Reva, c'était de dire voilà dans quelle direction ça pourrait partir, mais d'essayer quand même de lui donner une liberté sur la chose, le but étant avant tout de donner de la chair à ces personnages et qu'on puisse vraiment un peu entrer, les faire vivre, quoi.
Si je décide d'aller du côté du Lochberg, du musée du Lochberg, de Chantal, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais pouvoir manger visuellement, qu'est-ce que vous m'offrez justement dans une de ces expositions?
Alors, il y a des expositions où il y a moins de choses, ça c'est le cas du Lochental, où on est plus d'une installation qui est intégrée au musée avec d'autres collections et expositions temporaires.
Donc de toute manière, il y a quelque chose à voir.
De toute façon, il y a quelque chose à voir. Donc, et souvent, ce qui est très intéressant, en plus des collections ou des expositions temporaires qui rentrent complètement en résonance avec l'exposition qu'on a fait nous. Par exemple, il y a un cas extraordinaire à Sierre où c'est un vrai personnage, un vrai collectionneur, un personnage aussi complètement extravagant qui aurait pu être un autre personnage, dont on monte les collections au premier étage, qui dialogue avec notre personnage fictif, avec des objets qui sont présentés en haut et en bas. Donc vraiment là, un cas d'école fantastique pour ce genre de questions. Mais ce que vous allez trouver donc à Kippel, c'est un livre. Comme le livre des Hanler que j'évoquais avant, cette somme un peu sur la culture du Lochental. Donc, faut dire que l'artiste avec qui on a collaboré, Øystein Hazan, travaille aussi sur le livre comme médium. Et donc là, ça a été un peu une carte blanche pour lui. Paolo Chiasera a eu la sienne à Isérable. Donc, il a travaillé sur le livre. Donc, vous verrez un livre, un portrait du collectionneur fictif. Ce portrait est un des portraits que nous avons réalisé, enfin, que Paolo Chiasera a réalisé. Donc, il y a deux portraits, si on veut, faux portraits réalisés pour l'occasion, ainsi qu'une lampe qui était évoquée dans l'introduction. Maintenant, pour ce qui est du livre, je sais pas si vous voulez que je développe un peu ou si on veut. C'est un livre qui travaille dans la profondeur physique de l'objet, c'est-à-dire que et on a brouillé les pistes de deux manières parce que c'est ce personnage amnésique qu'on évoquait avant. Donc, il essaie, si on veut, de se reconnecter avec son passé à travers ses archives. Donc, ce personnage aurait travaillé à l'élaboration d'une documentation pour les villages suisses, des expositions universelles. Et donc, elle avait accumulé toute cette matière. Et donc, une fois qu'elle a eu perdu la mémoire, elle revisite cette matière qu'elle essaie de réorganiser pour se reconnecter. Et donc, ce qu'on voit, ce sont des objets de type ethnologique qui sont pour la plupart venus du musée de Kippel, qui sont déjà agencés de manière à ce qu'on en perde complètement le sens. Ils sont emboîtés, imbriqués.
Ils sont défonctionnalisés, quoi.
Défonctionnalisés. Donc, on voit bien qu'on rumine un peu au travers de ces objets, mais qu'on sait plus du tout à quoi ils servent. Et en plus de cela, l'artiste a coupé dans certaines de ses images comme des petites fenêtres qui font communiquer les pages avec ce qu'il y a en dessous. Donc on est vraiment une sorte d'archéologie. Donc c'est ce que vous allez trouver, c'est un objet à manipuler, vous pouvez le composer à votre manière, c'est pas un livre relié, donc ce sont plutôt des pages volantes. Et donc on invite le visiteur à avoir toute une réflexion sur ces questions-là, la mémoire, le passé, les objets, le patrimoine, à travers cet objet à activer.
Mais si on n'a pas Benoît Anti qui est là, qui est en train de nous expliquer justement ce livre avec ses multiples strates, comment est-ce qu'on se débrouille pour avoir du plaisir, avoir de la satisfaction, pouvoir comprendre?
Ben, c'est une excellente question puisque finalement c'est une exposition qui est plus difficile que ce que j'imaginais par rapport à sa réception, c'est-à-dire l'accueil qu'on fait le public. Et on a parié sur le texte, ce qui est finalement assez
donc
difficile.
Donc le livre.
Le livre qui est vraiment le plus qu'un guide, qui est la porte d'entrée dans l'exposition, avec certains textes qui ont été imprimés et qui sont disponibles comme sur des panneaux classiques dans les expositions. Mais je dirais qu'effectivement, si on ne lit pas la biographie, si on lit la biographie, mais qu'en plus on entre dans la tête du personnage à travers les textes de Noël Rova, et qu'on va encore chercher à la fin du livre, si on veut tous les éléments qui ont composé notre petite cuisine, avec nos références historiques, etc., notre réflexion, etc., alors là, c'est évident que, par exemple, à Kippel, le spectateur va passer à côté de tout. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, le spectateur va repartir avec pas mal de frustration. Ce qui arrive parfois, maintenant on a des retours des personnels qui travaillent dans les musées, certains font l'effort, et quand l'effort est fait, et notamment poussé par ces personnes qui les accueillent, ce qu'elles font très bien,
Sont enrichis.
Le mécanisme peut fonctionner, mais enfin on ne peut pas forcer les gens à l'activer, quoi.
Attention, The Cure sont à l'affiche du Paléo Festival ce soir à 23h30. Si la soirée affiche complet, le concert sera retransmis en direct sur Couleur 3. Retrouvez toute l'actualité du Paléo Festival dans Paradiso sur la première tous les jours dès 19h. On écoute In Between Days. In Between Days, The Cure, en direct sur Couleur 3 ce soir, et ce soir à 23h30, évidemment, en direct à Paléo, mais c'est complet, donc écoutez la RTS, écoutez Couleur 3. Vraies, fausses histoires, c'est ainsi que se nomment ces 5 expositions que vous pouvez découvrir en ce moment dans 5 musées valaisans. Un livre accompagne le voyage au cœur de collections appartenant à des personnages fictifs. Benoît, j'avais envie de vous poser cette question avant de commencer à travailler sur cette exposition, travail au long cours, un livre est paru. Quelle était votre vision du Valais? Et puis aujourd'hui, en 4 ans plus tard, est-ce que vous voyez autrement ce canton?
Eh bien, oui, bien sûr. On s'est fait d'ailleurs la réflexion avec l'autre valaisanne du projet, Noël Reva. Donc, Øystein Hazan est norvégien et Paolo Casera est italien. Mais on a vraiment découvert à travers l'histoire du Valais qu'on a dû traverser pour écrire ces biographies, parce que ça, c'est quelque chose de fondamentalement pour nous. La fiction nous sert vraiment à parler de l'histoire et à la questionner. Donc c'est pas de la pure fiction. Donc on a été nourri aussi du travail. On a rencontré beaucoup d'historiens. Mais donc on a vraiment découvert des pans de l'histoire valaisanne qu'on connaissait pas du tout. Et un Valais aussi très ouvert, cosmopolite, avec des personnages incroyables. Comme ce Maurice Gaillant, jésuite, qui a fait un travail extraordinaire dans des tribus en Amérique, tribus indiennes en Amérique du Nord, qui a traduit, transcrit leur langage, ou des personnages, par exemple, liés à l'émigration de Débarra, que je connaissais pas du tout. On connaissait bien sûr l'émigration valaisanne en Argentine, etc. Mais je savais pas du tout que les communes, à un certain moment, s'étaient débarrassées de tous les parias, si on veut, de toutes sortes, qui n'étaient plus les bienvenus. Donc, aussi des pages sombres, de l'histoire valaisanne. Et puis, bien sûr, des personnages comme Super Saxo ou Mathieu Schinner, l'évêque, qui ont été extrêmement influents au XVIe siècle sur les plateformes internationales, quoi, entre le pape, entre...
Plein d'humanisme, en fait.
Donc oui, donc là, vraiment, où ce Thomas Plater, là, qui a une vie d'humaniste incroyable, puisque vous parlez de ça. Bref, donc oui, une histoire beaucoup plus complexe, extrêmement riche et qui défie tous les clichés qu'on peut se faire sur le Valais fermé sur lui-même et conservateur.
Alors justement, on vous a chargé il y a quelques années, Benoît Hanty, de rendre une sorte de rapport sur l'état de l'art en Valais. Il me semble que c'était en 2014. Depuis, il me semble que le profil culturel de ce canton s'est beaucoup développé, beaucoup ouvert à l'art contemporain. Il y a une vraie assise comme ça. Ça devient bientôt une sorte de pôle de référence avec beaucoup de femmes à la tête d'institutions importantes, ce qui est très réjouissant. Puis une école d'art qui, depuis l'arrivée de Jean-Paul Fellet l'année dernière, apporte aussi une nouvelle énergie. Là aussi, quel regard vous portez sur ce Valais 2019, cuvée 2019?
Écoutez, il est tel que vous le décrivez, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, des changements énormes. Des changements qui sont conjoints, je dirais, entre les acteurs du terrain, curateurs, artistes, avec des nouveaux lieux et des lieux qui se professionnalisent, qui se dessinent plus clairement, avec des initiatives aussi originales, comme par exemple les expositions de R&A à Vercorin. L'envie vraiment de trouver aussi quelque chose qui soit propre aux possibilités d'un canton comme le Valais, qui est pas urbain comme Genève ou Lausanne, avec une grande tradition institutionnelle. Donc aussi de chercher sa spécificité, de pas toujours essayer de se comparer ou de faire comme, mais donc conjoint entre les acteurs et ou ces acteurs du terrain, mais aussi la politique culturelle du canton du Valais. Il faut le dire, sous l'égide de Jacques Cordonnier, a pris un tournant...
Une ampleur incroyable.
Une dynamique incroyable, effectivement, avec des nouveaux dispositifs de soutien, d'ailleurs, le rapport que j'ai fait était en vue de nouveaux dispositifs. Donc, effectivement, tous ces éléments contribuent énormément à dynamiser le canton avec des initiatives tout à fait originales. Et comme vous l'avez remarqué aussi, énormément de femmes maintenant à la tête de ces institutions. Céline Hayden-Benz au musée d'art, Anne-Jean Richard à Martigny au manoir, Federica Martini aussi qui est très importante à l'école d'art. Pour ne citer qu'elle, Isabelle Panatti à la ferme Asile. Donc vraiment, voilà, des femmes qui sont toutes à la tête maintenant de ces institutions et qui font un travail fantastique, quoi.
Ferme Asile, d'ailleurs, que vous connaissez bien parce que vous avez été curateur d'exposition dans la belle grande grange de cette ferme Asile. C'était Quelles années? C'était
Alors, c'était 2003-2009.
C'est bien ça, hein, 2003-2009. Première, vous vous souvenez de votre première expo là-bas?
C'était une exposition de dessins de Fellini. Exposition qui a été extraordinaire. Je le dis pas parce que je l'ai pas réalisé justement. C'est parce que on avait confié le projet à un scénographe qui d'ailleurs à l'époque était prof à ce qui s'appelait encore les caves, Gilles Lambert, qui a vraiment développer lui toute la scénographie qui allait avec ses dessins de la Fondation Fellini qui est à Sion. Donc moi j'étais plus le coordinateur de ce projet et Gilles Lambert nous avait fait quelque chose d'absolument fantasmagorique et donc un début très intéressant pour cette aventure de la Fermesille.
Et vous êtes également enseignant à l'EDA, à l'école d'art de Sierre.
Tout à fait.
Qu'est-ce que la pédagogie vous apporte, Benoît Antille?
Énormément. Bon, ce qu'il y a, j'ai souvent changé un peu de fusil d'épaule, donc j'étais curateur à la Fermesille et maintenant je me suis un peu redirigé vers une carrière plus académique d'enseignement et de recherche. Mais l'enseignement qui a été une découverte, j'ai commencé ça il y a 4 ans, m'apporte énormément. Puisque justement sur la manière de partager ce que je crois savoir, ça remet énormément de choses en question. Et en retour, les questions qu'on me pose, etc., me challenge énormément, me nourrissent et me challenge. Donc c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus et que je suis très heureux de pouvoir faire aussi de plus en plus.
La Lune, on en parle beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Je vous propose d'aller sur la Lune en compagnie de Big Flo et Oli.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais. Je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Je serai fou, j'aurais fait le tour de la terre. J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurais assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurais fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurai réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurai réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour j'irai sur la lune, j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais.
Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Sur la lune, Big Flo and Oli dans Vertigo. Avec vous, Benoît Anti, on parle du Valais, de son rôle culturel, de cette exposition Vraie Fausse Histoire que l'on découvre dans 5 musées valaisans. Question, voilà, de but en blanc, l'art vient à vous de quelle façon?
Bonne manière très simple, hein. Il faut pas chercher très loin, c'est mon père, hein, qui est passionné d'art, d'art contemporain, qui a pas choisi ce biais-là professionnellement, mais qui l'a fait de manière intensive tout au long de sa vie, encore maintenant avec le Festival Orient-Occident à Mercier, mais qui, pendant 15 ans, a eu une galerie d'art contemporain à Sierre.
Absolument.
Le FAC, le Forum d'art contemporain. Donc moi, je baignais là-dedans depuis tout petit, on allait au musée, voilà, c'est pas très original, mais c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné le goût pour ces choses-là, quoi.
Je me demandais quel était le rôle ou l'existence de la Fondation de Janada pour vous. Est-ce que c'était aussi quelque chose, un pôle possible? Je me souviens d'avoir interviewé Jean-Paul Felet à ce propos, et pour lui, ça avait été aussi quelque chose d'important. Il avait même travaillé, je crois, à la Fondation.
Alors, la Fondation de Janada, c'est bien sûr une institution extraordinaire en Valais, je veux dire, en termes de d'image de marque et de diffusion. Moi, je me souviens avoir été en Grèce, en sortant de l'avion, d'avoir vu une affiche de la Fondation Janada.
Quel
Donc,
rayonnement!
Ouais. C'est une fondation privée sur laquelle je pense on aurait beaucoup à apprendre aussi dans le domaine
du management.
Hein, du management. C'est une fondation aussi qui est des, voilà, elle peut être critiquée parce qu'elle est aussi dans une ligne classique, si on veut, d'art moderne, etc. Mais je veux dire que depuis le temps, j'ai appris à développer énormément de respect pour le travail de la Fondation et surtout pour Janada lui-même. D'ailleurs, dont on a vu récemment encore à l'occasion d'exposition de photos en Valais, son travail de jeune photographe, qui est incroyable.
Qui est incroyable, en effet. Très bon photoreporter.
Donc, un personnage, du coup aussi, puisqu'on est dans ces, pas dans la fiction, mais voilà, haut en couleur, valaisan, et qui est fascinant, quoi. Donc, non, énormément de respect pour la Fondation de Janada.
L'art contemporain, dont vous le disiez, votre père vous a mis le pied à l'étrier, mais peut-être une première rencontre avec une œuvre, quelque chose qui, tac, vous fascine, ou vous excite, ou que vous titille.
Bah, c'était la Biennale de Venise, je pense, quoi.
Mais vous avez quel âge? 2 ans et demi?
Non. Non, bon, alors mes passions antérieures, c'était des passions pour l'histoire. La chose que j'ai voulu étudier d'abord, pendant longtemps, c'était l'histoire médiévale. Donc voilà, vous voyez,
vous êtes pas loin avec ce projet, bien sûr.
Ça permet de réveiller des... Finalement, j'ai étudié l'histoire de l'Antiquité et l'archéologie, avec un peu d'histoire de l'art à côté. Mais donc, mes premiers émois, ça a été les châteaux, les collections du Moyen-Âge, etc. Ça, quelque chose de très, très marquant, quoi.
Mais ensuite, alors, bon, Biennale de Venise, et là, la baffe.
Bah, c'est-à-dire que... l'art contemporain, c'était plutôt, si on veut, la passion de mon père. Et j'avais aussi envie de me démarquer, enfin pas de manière consciente, mais vraiment l'histoire était la chose à laquelle j'avais envie, enfin, qui m'intéressait le plus déjà, et que j'avais envie de faire, dont j'avais envie de faire le métier, l'archéologie ou l'histoire. Et finalement, petit à petit, on a travaillé un peu ensemble avec mon père. Pendant très longtemps, pendant plusieurs années, bon, j'étais jeune, j'allais pas forcément au fac. Voilà, ça s'est fait de manière tout à fait tranquille, petit à petit. Et finalement, c'est la ferme Asile qui m'a mis le pied à l'étrier, puisque comme tout étudiant qui finit les lettres, il y a la question de la vie réelle ensuite. Hein, qu'est-ce qu'on va faire?
Comment on gagne sa vie?
Et il se trouve que la ferme Asile m'a fait ce cadeau extraordinaire à l'époque de me faire confiance pour devenir curateur des expositions, pour dire que j'avais très peu d'expérience et que c'était pas forcément le domaine, alors là, comme vous l'avez compris, que je connaissais le mieux, et pourtant ça s'est fait. Et ça m'a vraiment ensuite mis sur la voie de l'art contemporain, quoi.
Mais le nom peut-être d'un artiste qui vous a justement émerveillé?
Bon, alors...
C'est très difficile, c'est, j'imagine
non,
bien.
Non, parce qu'il y a un artiste qui m'a obsédé longtemps. De nouveau, c'est peut-être pas très original, mais c'est Giacometti. Ça, comme plusieurs curateurs, peut-être, j'ai eu moi-même ma période artiste. Hein.
J'avais commencé. Vous avez essayé.
Quand l'école d'art était encore à Sion. Ensuite, j'ai essayé de le faire de mon côté, etc., avec une petite exposition avant de comprendre que c'était mieux d'arrêter. Mais Giacometti, vraiment, à cette époque, il m'avait nourri et m'avait mis sur la voie, disons, de la peinture. Donc ça, vraiment, c'est... Le premier vrai grand choc esthétique, c'est Giacometti.
Donc Giacometti, père
non, hein, fils
d'ailleurs, qui est présenté en ce moment à Janada, justement, avec une sorte de dialogue Rodin et Giacometti, ce me semble.
Alors,
file et vite voir l'exposition, pas dire qu'elle est magnifique, justement. Une petite dernière pour la route, hein, Benoît Anti. L'été d'un curateur, ça ressemble à quoi?
Bah, ces studios, bon, il y a la vie de famille aussi, hein, donc. Bientôt les vacances, et puis ça s'arrête jamais parce que il y a toujours des projets en cours. Donc là, je suis en train de, il y a les cours eux-mêmes à préparer, un projet d'exposition qui aura lieu à la fin de l'année sur lequel je suis déjà en train de travailler. Donc on cultive les projets en cours, mais on se met quand même, on fait ça en tongs, quoi.
Très bien. Merci beaucoup Benoît Anti d'être passé dans Vertigo. Cette exposition Vraie Fausse Histoire est à découvrir dans 5 musées valaisans. Ça va de Sion jusqu'au musée du Lutschenthal. Un livre publié chez Art Fiction, qui permet de continuer le voyage au travers de ses collections de personnages fictifs. C'est jusqu'au 15 septembre. Et nous allons maintenant, justement, nous tourner vers Nicolas Julliard.
Vertigo, art visuel.
Bonjour Nicolas Julliard.
Bonjour Florence.
On va partir avec vous en balade dans un lieu plus propice au recueillement qu'à la gaudriole. C'est le cimetière des rois de Genève. On s'y rend pour découvrir une intervention artistique, The Other Side, de l'artiste finlandaise Ulla Taipaleinen.
The Other Side, l'autre côté. Dans un cimetière, quand on pense à l'autre côté, on pense à cette ligne de partage entre les vivants et les morts, symbolisée par de lourdes pierres tombales. Impossible d'être à la fois d'un côté et de l'autre de cette ligne, à moins que les artistes ne nous y invitent. Et pour tenter de briser cette frontière entre les vivants et les morts, les artistes d'aujourd'hui ont des ressources nouvelles, par exemple le smartphone. Bah oui, et précisons que cette intervention artistique ne donne pas grand-chose à voir, mais tout à entendre. À la radio, ça nous arrange. Et ce sont les mots des écrivains du passé qu'on va traquer entre les travées du cimetière genevois. Alors personnellement, quand on me dit cimetière des rois, je pense d'abord à Georges Luis Borges, merveilleux écrivain argentin décédé à Genève, un des hôtes les plus illustres de ce cimetière. Et ça tombe bien, si j'ose dire. Il fait partie des plumes sélectionnées par Ulla Taipaleinen dans cette installation interactive. Suivez-moi. Ok, on est au cimetière des rois. J'ai téléchargé l'application Arilin qui va me permettre de faire fonctionner l'œuvre interactive The Other Side. Alors, si mes souvenirs sont bons, la tombe de Borges est par là. Ah oui. Ah oui, ça y est, je la vois. Bon, rien à signaler devant la tombe. Voyons. Ah, là derrière, un petit panneau. Sous les arbres, un petit panneau noir et blanc avec des abeilles, des plantes dessinées dessus. Alors j'approche mon téléphone de ce dessin, il le scanne, ah ouais, et...
Le peloton se forma et se mit au garde à vous. Hladik, debout contre le mur de la caserne, attendit la décharge. Quelqu'un craignit que le mur ne fût taché de sang, alors on ordonna aux condamnés d'avancer de quelques pas. Hladik, absurdement, se rappela les hésitations préliminaires des photographes. Une lourde goutte de pluie frôla une des tempes de Hladik et roula lentement sur sa joue. Le sergent vociféra l'ordre final. L'univers physique s'arrêta.
Bon, alors c'est vrai que c'est pas très joyeux, c'est un extrait du Miracle secret, une nouvelle de Borges. La voix qui lit n'est pas non plus extraordinairement roborative, mais finalement c'est pas si mal parce qu'une fois que vous avez obtenu le son dans l'application, libre à vous de poursuivre votre déambulation dans le cimetière des rois à la recherche d'autres auteurs, la plupart cachés sous les arbres. Il y en a 8 en tout, et tous, loin de là, ne sont pas enterrés dans ce cimetière. Je ne vois, puisqu'on y découvre au détour d'une allée Virgile, Maurice Maeterlinck, ou des auteurs bien vivants, comme l'anglaise Jo Chapcot ou la finlandaise Johanna Sinisalo. Point commun entre ces différentes plumes, eh bien, c'est leur intérêt pour les abeilles. Les abeilles qui sont, depuis l'Antiquité, perçues comme appartenant à un monde à part, elles seraient des messagères de l'au-delà. Et puis les abeilles, c'est aussi une des manifestations les plus visibles de la vie dans un cimetière, puisqu'on y rencontre une grande variété florale et de grands arbres qui les attirent. D'ailleurs, une des plaques sensibles qui réveille les sons du smartphone diffuse la voix des abeilles, un enregistrement en provenance d'un parc catalan. C'est beau, hein? Et puis, il y a un autre lien très poétique avec les abeilles, c'est que cette opération est dédiée à la mémoire de François Houbert, né à Genève en 1750. François Houbert, c'est qui? C'est un naturaliste à qui on doit une mine d'informations sur les abeilles. On peut dire qu'il est un des inventeurs de l'apiculture moderne, et Houbert était aveugle. Comme Borges, pas mal, non? Alors, cette installation est proposée par Utopiana, une association spécialisée dans les interventions artistiques en milieu urbain, avec une forte dimension écologique. D'ailleurs, ce projet, The Other Side, s'inscrit dans le cadre plus large de 1000 écologies, un événement qui aura lieu du 9 septembre au 10 octobre prochain à Genève. On aura l'occasion d'en reparler. Et d'ici là, si vous souhaitez faire l'expérience de cette proposition d'Oula Taipale, prenez votre téléphone portable, un casque d'écoute et téléchargez l'application Aryline, A-R-Y-L-I-N, elle est gratuite, pour découvrir cette sélection de textes évoquant de près ou de loin les abeilles.
Merci Nicolas, The Other Side, c'est donc cette expérience auditive de réalité augmentée à faire au cimetière des Rois de Genève jusqu'au 11 octobre. Je vous propose d'écouter maintenant de tendre l'oreille à ce nouveau titre du trio Coladeira, dont les membres viennent du Brésil, du Cap-Vert et du Portugal. Ça fait rêver, A Luz de Yaya.
Na varanda, o brilho de uma que anda deitada na areia nua. Vi na luz o lume de uma sereia. Esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia. E eu deitado na praia, a lembrar Iara nua. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo, e se não sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo, e se não despertando, vejo o mar. E era já água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fulgor dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo, e se não sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo, e se não despertando, vejo o mar. Oi, iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Oi, iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá.
acalmando a muita sede.
Luz de Yaya du trio Coladera sur Vertigo. Avant de se quitter, on prend des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Genève, de forts ralentissements sont toujours constatés entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardonnay en direction de la France. Sur l'axe Genève-Aoste, on annonce une heure d'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Et sur l'axe Lucerne-Cassot, on signale des bouchons aux abords des deux entrées du tunnel du Gothard, moins 3 km en direction du Tessin, ce qui correspond à un temps d'attente d'environ une demi-heure, 2 km en direction de Lucerne, ce qui représente environ une demi-heure de patience. Un point concernant le service de ferroutage du Lötschberg en gare de Goppenstein. Le temps d'attente est estimé à une heure.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS. Vertigo avec Stade Menuhin Festival, Cap sur Paris du 18 juillet au 6 septembre.
Merci à François Piton pour la programmation musicale, Cécile Claire, notre attachée de production, et Jean-Daniel Bruno Seriba pour la réalisation de cette émission. Bouh! Retrouvez tous les podcasts de Vertigo sur Internet à l'adresse www.rts.ch/vertigo. Nous sommes présents également sur les réseaux sociaux. Demain, dès 17h, rendez-vous avec la chorégraphe Nicole Seiler qui enchante les jardins lausannois. À demain!
L'heure avec Migros et la pomme de terre Amandine.
Il est 18h sur la première forum et présenté par Elisabeth Lejean et Pietro Bugnon.